Sébastien Lecornu réunit ce soir les signataires de l'accord de Bougival. Il s'agit de faire le point après le rejet du projet de loi constitutionnelle sur la Nouvelle-Calédonie à l'Assemblée nationale. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? C'est aussi le thème de la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir à retrouver dans ce journal. Dernière chance pour Aircal, le directeur général va déposer le bilan de la compagnie pour entamer une procédure collective. Objectif, faire accepter un plan de redressement par le tribunal de commerce pour éviter la fermeture définitive. Donald Trump donne des détails sur l'opération de récupération du pilote dont l'avion a été abattu en Iran. Des moyens considérables ont été déployés. Dans notre armée, nous n'abandonnons aucun Américain, a déclaré le président. Il y a 10 ans, Emmanuel Macron crée En Marche pour le propulser vers l'Élysée. 10 ans après, c'est l'heure du bilan. Et puis en sport du cyclisme, une belle victoire française sur le contre-la-montre inaugural du Tour du Pays Basque. Paul Sexas décroche sa première victoire sur le World Tour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Comme tous les mardis, il sera suivi par le magazine Citoyen. Bonjour Nicolas Legrand.
Bonjour Jean-François Bodin.
Un citoyen consacré cette semaine à la santé mentale.
Oui, c'est un sujet dont on parle peu, mais qui prend pourtant de plus en plus d'importance en Nouvelle-Calédonie. Il faut dire que dans les cas les plus aigus, la crise suicidaire peut arriver. Alors comment reconnaître et prévenir ce type de crise suicidaire ? Quelles solutions existent pour les patients en difficulté et pour éviter ces crises ? La santé mentale au cœur de notre magazine Citoyen, donc ce midi. Et pour parler de ce thème, nous profiterons de la présence sur le territoire du professeur Emmanuel Poulet. Il est psychiatre et expert reconnu des urgences psychiatriques et des troubles dépressifs résistants. Nous serons également en compagnie du docteur Guy Sauswell, psychiatre au CHS Albert Bousquet.
C'est donc ce soir pour nous que le Premier ministre réunit les signataires de l'accord de Bougival. Sébastien Lecornu avait annoncé cette initiative immédiatement après que l'Assemblée nationale ait adopté une motion de rejet du projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie. Il avait regretté que cela prive les Calédoniens d'une discussion parlementaire sur l'avenir du territoire et avait annoncé que face à ce blocage inédit, le gouvernement prendrait ses responsabilités. Ni immobilisme, ni passage en force, déclare le Premier ministre, qui annonçait que les signataires de l'accord de Bougival seraient réunis la semaine prochaine, comme cela est prévu en cas de blocage. La réunion se tiendra donc ce soir à 19h, heure de Nouméa. Il sera 10h à mardi, à Paris. Le Premier ministre a convié les représentants des différents groupes politiques et les parlementaires. Et les travaux se tiendront en présentiel pour ceux qui sont actuellement en métropole et par visioconférence depuis le Haut-Commissariat pour ceux qui sont sur le territoire. Il s'agit de trouver une solution à l'impasse créée par le rejet de la réforme constitutionnelle et les participants devraient donc évoquer l'hypothèse d'une éventuelle consultation des Calédoniens et celle d'une ouverture du corps électoral en vue des prochaines provinciales. Une situation qui est aussi le thème de la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir que l'on retrouve tout de suite.
Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? C'est la question que tout le monde se pose depuis que l'Assemblée nationale a rejeté mercredi, sans même l'examiner, le projet de loi constitutionnelle sur la Nouvelle-Calédonie. Une motion de rejet aux allures de motion de mépris, pour reprendre l'expression du Premier ministre, puisque les députés de gauche, renforcés par ceux du Rassemblement national, n'ont même pas daigné se pencher sur les 3 articles de la réforme constitutionnelle qui était censé inscrire l'accord de Bougival et son accord complémentaire Élysée-Oudinot dans la Constitution. Ils ont d'ailleurs rejeté le texte pour des raisons opposées. La gauche, LFI en tête, parce que l'accord de Bougival inscrit la Calédonie dans la France. Le Rassemblement national, parce que l'accord de Bougival conduit tout droit la Calédonie à l'indépendance. Comprenne qui pourra. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Même les calédologues les plus avertis perdent leur latin et les juristes, comme d'habitude, ont des interprétations divergentes. Pour être franc, personne ne sait ce que l'on peut faire, raison pour laquelle Sébastien Lecornu, qui refuse à la fois l'immobilisme et le passage en force, réunit ce soir tous les signataires de Bougival, même ceux qui ont retiré leur signature, pour essayer de trouver une réponse. On connaît les différentes hypothèses. On pourrait lancer une consultation des Calédoniens sur l'accord de Bougival, mais le FLNKS y est opposé. Et de toute façon, cette consultation n'aurait aucun effet contraignant sur les parlementaires qui se sont enfermés dans leur refus de valider un accord sans consensus, un consensus qui, pour eux, est synonyme d'unanimité puisque l'accord de 5 groupes politiques sur 6 ne leur suffit pas. On oublie la consultation, il reste donc l'option de l'organisation des élections provinciales avec modification ou non du corps électoral. C'est là, aussi et surtout, que le bât blesse. Les partisans de la France refusent que les provinciales aient lieu avec un corps électoral gelé. Et les indépendantistes refusent que l'on dégèle le corps électoral. Alors il y a l'hypothèse d'une ouverture partielle, aux natifs ou aux conjoints, voire la possibilité d'un corps électoral glissant sur 15 ans, comme le prévoyait Bougival. Mais encore faut-il trouver un véhicule juridique pour modifier le corps électoral sans modifier la Constitution. Et encore faut-il trouver une majorité pour l'adopter. Même si la position de Marine Le Pen, qui a déclaré qu'elle était favorable à une ouverture du corps électoral, peut aider à résoudre ce dilemme. Mais même si le corps électoral était modifié, ce qui semble improbable au vu des dernières déclarations du FLNKS, qui ne veut pas que l'on touche au corps électoral sans accord global, on ne serait pas sorti d'affaire pour autant. Le FLNKS veut des élections provinciales le plus vite possible pour engager de nouvelles discussions sur l'avenir institutionnel. Mais qui peut croire qu'au lendemain de ce scrutin, les nouveaux élus, quels qu'ils soient, seront prêts à rechercher un nouvel accord après les déboires de Bougival? On a l'impression d'être dans ces jeux de casse-tête où l'on se heurte sans cesse à des obstacles impossibles à franchir. Alors il nous reste le bon vieil accord de Nouméa que l'on aura essoré jusqu'au bout. Il survit tant qu'une nouvelle solution institutionnelle ne l'aura pas remplacé. Mais il ne prévoit plus aucun processus d'autodétermination. On a organisé les trois consultations. Elles ont acté la volonté des Calédoniens de rester dans la France. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir, vous la retrouvez sur notre site internet. Vous pouvez aussi la retrouver et la réécouter sur RRB. Ce sera juste après le flash de 16h cet après-midi.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS avec notre question du jour. Pensez-vous qu'il va sortir quelque chose de la réunion organisée ce soir par le Premier ministre Sébastien Lecornu avec les signataires de l'accord de Bougival ? Si vous pensez qu'il va en sortir quelque chose, vous tapez 1. Si vous pensez qu'il ne va rien sortir, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Dans quelques jours, le directeur général d'Aircal va déposer le bilan de la compagnie auprès du tribunal de commerce. Cela ne signifie pas encore la fin de la compagnie aérienne locale, mais cela lance un accompagnement juridique qui doit permettre à son terme de quelques mois de voir si Aircal mettra ou non la clé sous la porte. Cette décision a été prise à l'issue d'un conseil d'administration qui a constaté l'extrême faiblesse de la trésorerie de la compagnie, littéralement plombée par le blocage des aérodromes des loyautés qui dure depuis 5 semaines maintenant. C'est ce que nous a dit le directeur général d'Aircal, Daniel Lombouy, qui était ce matin notre invité à 7h30.
Par rapport à nos hypothèses de budget sur l'année 2026, enfin nos hypothèses de trafic, avec 220 000 passagers espérés, on avait de toute façon un déficit.
Parce qu'il y a déjà une jauge assez faible par rapport à ce que Air Calédonie a connu, on se rappelle.
Oui,
hein,
oui.
350, presque 400 000.
Oui, c'est ça, 350 sur les 15 dernières années, exception faite des crises, 350 000 passagers, en gros, c'est le volume de trafic habituel pour les îles Loyauté, l'île des Pins. Et donc on est bien en deçà, on espérait un redressement déjà, nous, par rapport à l'année dernière, 220 000 passagers, mais qui était largement insuffisant. Donc, on comptait sur l'aide des actionnaires, qui sont les collectivités actionnaires, à hauteur de 500 millions pour couvrir ce déficit attendu cette année. Maintenant, avec plus d'un mois de blocage, ce sera largement insuffisant. Il faut compter un peu plus, voire le double de ce qui était prévu pour enflouer les caisses de la compagnie.
Aircal était déjà en situation financière très tendue, mais ce blocage des aérodromes est en train de lui donner un coup de grâce, car aucun argent ne rentre dans les caisses, a poursuivi Daniel Lombouy.
Depuis les arrêts, on n'a plus aucune recette, donc il n'y a plus du tout de cash qui rentre dans la compagnie, donc on fait face à un risque de cessation de paiement qui va arriver dans les prochains jours.
Pas d'argent qui rentre, mais des charges qui continuent à être payées.
Mais voilà, les dépenses obligatoires, bien évidemment, vous avez les salaires à payer, vous avez les assurances qui continuent à courir, ou les loyers même dans les aérodromes, donc ça, il faut y faire face tous les jours, toutes les semaines et sans entrée d'argent en effet. C'est la décision du conseil d'administration qui avait constaté qu'on était en quasi-cessation de paiement. Si la situation ne s'améliorait pas, ben on va se retrouver avec l'impossibilité de faire face à nos factures. Et donc la décision a été de me mandater pour déposer le bilan, c'est-à-dire engager une procédure collective.
Le dépôt de bilan doit donc permettre à Aircal d'entamer une procédure collective auprès du tribunal de commerce. Ses dettes vont être gelées et elle va bénéficier d'un laps de temps pour présenter un plan de redressement. S'il n'est pas accepté par le tribunal, ce sera la fin de la compagnie. On n'en est pas encore là, nous a dit Daniel Lombouy, mais cette procédure collective est la seule chance de sauvetage d'Aircal, car toutes les autres pistes de réduction des coûts ont été mises en œuvre.
Toutes les mesures prises en interne, moi je rappelle le plan social qu'on avait réalisé en 2024 et toutes les mesures d'économie en termes de charges, et aujourd'hui on les a réalisées. Le dépôt de bilan, la procédure collective, si on l'obtient de la part du tribunal du commerce, nous permettra de pouvoir restructurer à nouveau les dettes, geler les dettes pour retravailler, pour nous donner une chance de rebondir, avec le risque que on soit liquidé si jamais on ne convainc pas le tribunal du bien fondé, ou en tout cas de la continuité d'activité.
La procédure collective vous protège, entre guillemets, pendant combien de temps ?
Alors, Dans les jours qui arrivent, il y aura une audience du tribunal pour laquelle je déposerai le bilan. J'espérais la situation en vue d'obtenir du tribunal l'ouverture d'une période d'observation. Celle-ci, elle sera de 6 mois. Et donc, dans ce délai de 6 mois, qui pourrait, dans certains cas de figure, renouveler, je vais travailler avec les administrateurs, les mandataires judiciaires qui seront désignés par le tribunal. Si on obtient cette période d'observation, nous aurons, dans les 6 mois, à présenter un plan de continuité de l'activité, donc un plan de redressement dit autrement.
Rappelons que le plan social mené par Ercal ces derniers mois a considérablement pesé sur le personnel. Sur les 375 salariés employés avant la crise, il en reste aujourd'hui 220. Un autre facteur risque de peser sur la compagnie dans les semaines et les mois qui viennent. Il est conjoncturel, celui-là, et lié à la guerre en Iran. C'est l'augmentation du prix du kérosène.
On a eu l'information par notre pétrolier, c'est pas secret, mais alors nous on se fournit uniquement en Nouvelle-Calédonie, donc c'est qu'à partir du 1er mai, mais on parle d'ores et déjà d'une augmentation du prix du carburant de 50% par rapport à ce que l'on paye aujourd'hui.
Ça va se répercuter sur le prix du billet.
Forcément sur le prix du billet, oui.
Il n'y a pas d'autre solution.
Non.
Daniel Ombouy, le directeur général d'Ercal, qui était donc ce matin notre invité à 7h30, une interview à retrouver sur rrb.nc. À 11h42, la première pause de ce journal et dans un instant, le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Votre tranquillité d'esprit, avant tout. Pour recevoir toutes les informations importantes sur les coupures, le montant de votre facture et la date d'autorelève, mettez à jour vos contacts e-mail et numéros de téléphone. Contactez-nous à clientèle@cde.nc ou au 05 01 25. Calédonienne des eaux, l'eau qui nous unit.
Comment devenir le meilleur de tous les temps? En un mot, le GOAT des soirées cinéma. Étape 1, profitez de l'offre du moment Canal+, avec les plateformes Apple TV, HBO Max, Paramount+, et bien sûr, les 10 chaînes Canal+, incluses, pour seulement 4000 francs par mois, sans engagement. Étape 2, à vous le cinéma ultra récent, le sport en direct et les séries exclusives sur votre télé, mobile, tablette ou autre appareil connecté. Étape 3, plus aucun doute, vous êtes le GOAT des soirées cinéma. À vous le streaming Canal+, Apple TV, HBO Max et Paramount+, pour seulement 4000 francs par mois, sans engagement. GOAT, le meilleur de tous les temps. Offre avec abonnement mensuel au tarif de 4000 francs par mois, valable en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna jusqu'au 30 avril et soumise à condition. Modalité au 26-53-30 en Canal+ Store ou sur canalplus-calédonie.com.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
La suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie est le lancement d'une formation à l'entrepreneuriat en milieu scolaire sur le territoire. Elle s'adresse aux jeunes de 18 ans, diplômés d'un bac ou équivalent, et elle se déroulera, Léana Colombo, sous l'égide du vice-rectorat au sein de Jules Garnier.
Cette nouvelle formation proposée pour la première fois doit favoriser l'insertion des jeunes et la relance économique calédonienne. Durant 6 mois, 15 porteurs de projets suivront des modules thématiques ancrés dans les réalités économiques locales. On retrouvera par exemple des cours sur la spécificité de l'entrepreneuriat en terre coutumière, les secteurs porteurs, comment analyser le marché et développer un business plan. L'objectif, explique le vice-recteur Didier Vindatich, c'est d'aider ces jeunes à mettre le pied à l'étrier dans l'entrepreneuriat.
On est très content ce matin de lancer cette formation complémentaire d'initiative locale, une FCIL, qui permet à des jeunes en quête d'insertion professionnelle d'obtenir un certificat supplémentaire au diplôme qu'ils ont déjà pour favoriser leur insertion professionnelle. C'est une modalité de formation très souple, donc d'à peu près 400 heures, qui mixte à la fois ce qu'on appelle des compétences formelles, académiques, cognitives, avec des compétences plus informelles, le savoir-être, le savoir entrer en communication, savoir réaliser un certain nombre d'opérations pratiques permettant de faire aboutir, en effet, un projet d'entreprise.
Cette offre vient en complément d'autres dispositifs comme le parcours entrepreneur et la caravane de l'entrepreneuriat. Le monde économique sera également très présent dans cette formation grâce à des apports théoriques, pratiques, mais aussi des coachings personnalisés de personnalités issues du MEDEF NC, de l'ADI, d'Initiative NC et de la CCI. David Guyenne en est le président.
La FCIL coche plusieurs cases des missions de la CCI. On peut imaginer que certains jeunes, par la formation qu'ils vont recevoir, vont peut-être vouloir pousser un petit peu loin, à travers par exemple de l'alternance. On peut imaginer aussi que ceux qui auront mûri leur projet de création d'entreprise, eh bien, la CCI évidemment va les accompagner à trouver des financements, à remplir des formalités administratives, hein, de création, de fiscalité, de comptabilité. Et puis, au-delà de ça, il y avait deux éléments très importants de la FCIL qui nous ont convaincus. Le premier, c'est le fait que l'entreprise est pour tout le monde et que d'apprendre à ces jeunes qu'ils peuvent devenir chefs d'entreprise, mais s'ils ne le font pas, ils auront compris tous les efforts qu'il faut pour créer une entreprise, pour développer une entreprise, eh bien peut-être cette compréhension va permettre aux uns et aux autres de se respecter et de mieux respecter en fait le travail, notamment des chefs d'entreprise. Et l'autre point, c'est une démarche qui inclut tout le monde. Je suis persuadé que les solutions pour la Nouvelle-Calédonie se font tous ensemble à travers les compétences des uns et des autres, les réseaux des uns et des autres et puis les moyens des uns et des autres.
Le formulaire de candidature est à compléter au plus tard le 18 mai prochain sur le site internet du lycée Jules Garnier. Les candidats seront ensuite reçus en entretien de motivation par l'équipe pédagogique et les futurs mentors.
Le Haut Commissariat encadre la vente de munitions en avril jusqu'au 30 avril. Les personnes titulaires du permis de chasser pourront acheter maximum 50 munitions de catégorie C sur le mois, quel que soit le nombre d'armes détenues, Nicolas Legrand.
Oui, le Haut Commissariat justifie cet arrêté par le contexte politique tendu dans lequel l'examen du projet de loi constitutionnelle se déroule à l'Assemblée nationale. Il considère que de manière générale, le territoire traverse actuellement une situation économique, politique et sociale tendue. Il note que la délinquance est toujours prégnante, et notamment dans l'agglomération, avec des violences et des tensions urbaines récurrentes dans un contexte d'hostilité à l'égard des forces de l'ordre. L'État invoque aussi une hausse du nombre de vols d'armes à feu dans les cambriolages, ainsi que l'augmentation constante des refus d'obtempérer sur l'ensemble du territoire.
C'est le début des vacances scolaires et donc la reprise des centres de loisirs. Entre les activités sportives, culturelles, artistiques, les parents ont le choix pour occuper leurs enfants. La Fédération des œuvres laïques accueille une soixantaine d'enfants à l'école Candide Coche sous la direction de Laetitia Ségu-Martin. Pour cette première semaine de vacances, le thème retenu, c'est sciences, nature et santé.
Les enfants, ils vont apprendre en s'amusant, bien sûr, tout est ludique au niveau des activités. Donc sur tout ce qui est la nature, l'environnement, le recyclage, les gestes éco-citoyens, mais aussi des petites expériences scientifiques. Puis on aura un atelier aussi sur les plantes endémiques au territoire. Ce sont des thèmes qui reviennent de plus en plus souvent, comme le sport, la santé, la nature. C'est voilà, des thèmes de prédilection et qui intéresse énormément les enfants.
Et pour commencer la matinée en douceur, les jeunes ont participé à des ateliers de cohésion. L'objectif était de travailler sur l'inclusion des jeunes en situation de handicap tout en parlant nature.
Allez, on pose les feuilles. Tout autour du cœur, par le gros soleil.
Je suis en train de faire un soleil avec des feuilles, des bois.
Ah, ça commence à ressembler à quelque chose.
Avec des feuilles jaunes et des rayons de bois. Après, on fera une montagne, je crois, avec un soleil dessus.
On a fait des questions sur la nature.
Où les poissons habitent. Ben, on a dit la mer, les rivières.
Qu'est-ce qu'il y a des feuilles?
Voilà donc pour ce camp de vacances, ce centre de loisirs de la FOL. Notez que les inscriptions sont toujours ouvertes pour la seconde semaine de vacances scolaires. Et puis il a trouvé son public l'an dernier avec des visiteurs calédoniens et internationaux. Le festival du cinéma Récif revient cette année, Charlotte Coulson. Il se tiendra du 30 octobre au 21 novembre.
C'est une toute nouvelle formule, le festival des réalisateurs émergents et du cinéma international et films du Pacifique met en avant les premiers et secondes long métrage de cinéastes locaux et internationaux, mais aussi, comme l'année dernière, une sélection de courts métrages de fiction. Ces courts métrages sont sélectionnés sur concours auxquels vous pouvez participer. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Delphine Olivier-Vindine, déléguée générale du Festival Récif, nous présente les différentes catégories.
Il y a la sélection Pacifique, qui, comme son nom l'indique, est une compétition qui accueille des courts métrages de fiction de tous les pays du Pacifique. Ensuite, il y a le dispositif 1, 2, 3 filmés, qui est une invitation à réaliser un film en 48 heures. Il y a le concours Jeunes Talents, qui est une invitation, comme son nom l'indique, à ce que les plus jeunes présentent leur production. Également, le dispositif qui s'appelle 1, 2, 3 Pitchés, qui est là, est une invitation à présenter un projet de film pour bénéficier d'une petite aide en numéraire, mais aussi de l'accompagnement d'un producteur pendant quelques séances de travail. Le concours Toujours Plus Court, c'est un dispositif qui invite à réaliser des films de fiction de 5 minutes maximum, parce qu'on trouve que c'est un format qui stimule bien la créativité aussi et qui peut amener quelque chose un petit peu d'insolite, d'incongru, d'inattendu, enfin ce qui est un peu l'essence aussi du court-métrage.
Et beaucoup de catégories jury cible un public assez jeune. Pour les sensibiliser au 7e art et les encourager à se lancer, le festival organise des ateliers de préparation gratuits et ouverts à tous.
Ce sont des ateliers ouverts à partir de 13 ans. Il y a un moment de théorie avec une thématique proposée. Les participants bénéficient de juste quelques jours pour se préparer. Et ensuite, sur deux journées, il y a une journée tournage, une journée de montage. Et les groupes se retrouvent encore quelques jours plus tard pour pouvoir débriefer autour des films qui ont été réalisés. Donc c'est vraiment un travail de préparation qui leur permet de se sentir plus en confiance. C'est une première étape, c'est-à-dire que s'inscrire pour un atelier ne rend pas obligatoire le fait de faire le concours. Mais ce qu'on espère, c'est que les participants aux ateliers s'enthousiasment assez pour l'exercice, pour avoir envie de revenir au moment de la compétition.
Et rendez-vous sur le site www.recif.nc pour les informations sur les inscriptions au concours et aux ateliers de préparation.
À 11h52, on va marquer une nouvelle pause dans ce journal avant de voir l'actualité en métropole et dans le monde. Et bien sûr, un point sur la guerre au Moyen-Orient.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Chérie, tu m'expliques ? C'est quoi tous ces sacs dans le salon là ?
Je me prépare.
Prépare de quoi ? T'ouvres un magasin de sacs de course ou quoi ?
C'est bientôt l'anniversaire du complexe Le 4.
Mais non !
Mais si ! Tout le mois d'avril, promo dans toutes les enseignes, instant gagnant en caisse tous les jours, un panier garni de 20 000 francs chaque semaine.
Attends, je vais chercher d'autres sacs dans le placard.
Attends, mais c'est pas tout, t'as 200 000 francs de bon d'achat au tirage final.
Du 1er au 30 avril, le complexe Le 4 fête son anniversaire. Plus d'infos sur Facebook et directement en magasin.
Nico Sushi Bar, votre restaurant sushi depuis 1998. Sur place de 11h à 14h et à emporter de 9h à 19h30. Mardi et samedi, tous les sushis à 350 francs. Mercredi, moins 15% pour les familles. Et vendredi soir, sushi à volonté. Téléphone 25 11 88, Facebook Nico Sushi Bar.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite de votre journal, l'actualité en métropole et dans le monde avec Jean-François Bodin.
Et commençons par l'actualité à l'étranger. C'est une opération militaire historique. Ce sont les mots de Donald Trump qui n'arrête pas de souligner la réussite de l'armée américaine lors du sauvetage du second pilote dont l'avion a été abattu au-dessus du sol iranien. Le président a donné des détails sur les moyens déployés pour ce sauvetage à haut risque qui a nécessité l'engagement de 64 chasseurs-bombardiers, 48 avions ravitailleurs, 13 avions de sauvetage. Certains ont servi de leurre et ont été déployés loin de la zone de récupération du pilote pour brouiller les cartes. Une opération complexe et risquée, mais Donald Trump, dit-il, n'a pas hésité une seconde à la lancer.
C'était une décision risquée car nous aurions pu nous retrouver avec une centaine de morts au lieu d'un ou deux. Mais dans notre armée, nous n'abandonnons aucun Américain. Nous ne le faisons pas.
Fort de ce succès, Donald Trump continue de mettre la pression pour le déblocage du détroit d'Ormuz qui constitue le nouvel objectif de cette guerre. Il a pour cela fixé un ultimatum au régime de Téhéran qui prendra fin demain pour nous. Sinon, il menace l'Iran de connaître l'enfer. Antoine Bienvaux pour Europe 1.
L'Iran tout entier pourrait être éliminé demain soir, menace Donald Trump. Pour le président des États-Unis, la réouverture du détroit d'Ormuz reste une grande priorité, mais en l'absence d'un accord avec Téhéran, les infrastructures énergétiques iraniennes pourraient être bombardées.
Nous avons un plan grâce à la puissance de nos forces armées qui permettrait de détruire tous les ponts d'Iran d'ici minuit demain et de mettre hors service toutes les centrales électriques du pays. Cela pourrait se faire en l'espace de 4 heures si nous le voulions, mais nous ne voulons pas que cela arrive.
En attendant, Donald Trump appelle le peuple iranien à se soulever, un peuple qui le supplie de continuer les bombardements pour faire tomber les gardiens de la révolution, a-t-il ajouté.
Le blocage du détroit d'Ormuz continue de peser lourdement sur le prix du baril de pétrole et donc sur le prix de l'essence raffinée en station-service. Le gouvernement français, en raison d'un déficit public très important, a annoncé qu'il n'y aurait pas de mesures générales pour limiter, voire faire baisser les prix à la pompe, ce qu'ont fait d'autres pays européens, notamment l'Espagne. Le litre d'essence coûte 85 francs pacifiques de moins qu'en métropole. Les automobilistes français n'hésitent donc pas à aller faire le plein chez leurs voisins. C'est ce qu'a pu constater l'envoyé spécial d'Europe 1 Charles Bouchain à Figueras en Espagne, à 60 km de Perpignan.
Dans la file d'attente de cette station-service, ici, 80% de Français. Et pas besoin de regarder leur plaque d'immatriculation pour les reconnaître à la pompe.
On rentre le code et ça prend pas. L'écran, il est cassé.
Sauf que vu les prix, Angélique fait preuve de tolérance. Elle a fait la route uniquement pour faire le plein.
On habite Perpignan, trois quarts d'heure de route. Ici, donc, c'est 1,70 le litre. Et en France, on était à 2,30 €. Je trouve que c'est pas normal qu'aujourd'hui, on n'ait pas de baisse de TVA en France.
Un effort rendu possible grâce à un déficit public beaucoup moins important qu'en France. Le but du gouvernement espagnol est aussi de booster la consommation. Et le pari est réussi si on en croit ce Français.
Ce qu'on économise dans l'essence, je le dépense ailleurs. Je vais boire un café, je vais manger un petit truc. Donc, je fais marcher l'économie espagnole. Ah. Donc, je viens donner de l'argent aux Espagnols.
Notamment à ce restaurateur.
Il y a plus Français qu'avant, 30% de plus. C'est incroyable.
Un restaurateur qui accueille aussi plus de locaux qu'avant, sans doute encouragé par un autre geste gouvernemental ici sur le gaz et le bois de chauffage. Figueras, Charles L'Huillier, Europe 1.
La nuit prochaine pour nous, le cours du pétrole sera au cœur d'une réunion à Bercy en présence des syndicats. La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, propose déjà de limiter la hausse des prix, voire de les faire baisser en faisant baisser la TVA appliquée à l'essence. Et c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron fête les 10 ans de son mouvement En Marche, qu'il avait créé pour un tremplin en direction de l'Élysée. 10 ans après, jour pour jour, l'annonce de la création d'En Marche, c'est l'heure des bilans. Maïlène Trémollet.
En fondant En Marche il y a 10 ans, Emmanuel Macron entamait son irrésistible ascension qui allait le conduire un an plus tard à l'Élysée. Le dépassement des clivages ne semble plus d'actualité. 10 ans plus tard, celui qui s'était engagé à ce qu'il n'y ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes n'a pu empêcher la montée en puissance du RN ni celle de LFI. Et pour cause, au sein de la classe politique, ont fait le bilan, à commencer par Marine Le Pen sur ses réseaux sociaux ou encore le député RN Laurent Jacobelli au micro d'Europe 1.
10 ans de malheur, 10 ans de dissolution de la France, 10 ans de mépris pour les Français, 10 ans d'un pouvoir sans partage, même s'il est contesté, d'un homme qui est persuadé qu'il a raison contre la terre entière.
Il faut dire qu'avec une dette record, tout comme le nombre d'étrangers vivant en France, la cote de popularité du président est au plus bas et le chef de l'État, de plus en plus isolé, n'aura pas créer d'héritiers politiques. Au contraire, les anciens fidèles comme Gabriel Attal ou Édouard Philippe n'ont plus qu'une idée en tête, se démarquer du bilan de la Macronie.
Il est 11h58, la dernière pause de ce journal avant l'actualité sportive et on retrouvera ensuite le magazine citoyen.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
En ce moment, chez Maison Thirier, on passe en mode British. Découvrez notre offre Fish and Chips, 500 grammes de cola à 1190 francs. Et pour seulement 100 francs de plus, repartez avec 1 kg de frites offertes, de référence au choix. Avec un filet de citron ou une bonne aioli, à vous de jouer, c'est vous le chef. Voir conditions. En magasin, Maison Thirier, seul le bon crée du bonheur.
Des conseils concernant les placements, l'épargne, les SCPI ou encore la retraite? Caplif, votre expert calédonien en gestion de patrimoine, vous accompagne avec des solutions personnalisées. Caplif, depuis 35 ans à vos côtés. Et ce n'est que le début. Contactez Caplif au 28 30 00. RIAS 170 052, ORIAS 13103.
Tout le sport en trois lettres. RRB.
La fin de votre journal, le sport avec Jean-François Baudin.
Le sport avec du cyclisme à la une, Paul Sexas, le tricolore frappe fort sur le Tour du Pays Basque. Le jeune Français a en effet décroché sa première victoire sur le World Tour, Léo Fichou.
Oui, le jeune prodige de 19 ans a tout simplement écrasé la concurrence la nuit dernière sur le contre-la-montre inaugural. En seulement 13,9 km, Paul Sexas a mis plus de 20 secondes à ses concurrents. Le plus proche de lui, c'est un autre tricolore, Kevin Vauquelin, deuxième à 23 secondes. Écoutez-le, il n'est pas surpris de cette démonstration de force de Paul Sexas.
C'est juste exceptionnel, mais c'est de Paul. On est sur la même lancée depuis le début, depuis l'année dernière. C'est juste exceptionnel, mais c'est de Paul. On est sur la même lancée depuis le début, depuis l'année dernière, depuis le championnat du monde. Il n'y a pas de hasard, hein, il est juste fort et il s'entraîne fort. Je roule avec lui, on fait des cafés, on roule pas mal avec Jordan Le Gat et Louis Barré. C'est un super gars, on s'entend tous bien. La course, c'est la course, on s'amuse, c'est un jeu.
On signalera que parmi les principaux adversaires de Paul Sexas, on retrouve Primoz Roglic, 4e à 28 secondes, Isaac Del Toro, 13e à 51 secondes et Juan Ayuso, 38e à 1 minute 16. Ce soir, étape de montagne, 164 km.
Du tennis avec la suite du premier tour du Masters 1000 de Monte Carlo. Retour sur terre réussi pour Arthur Rinderknecht qui s'est imposé sur Karen Khachanov. Victoire également de son cousin, le monégasque Valentin Vacherot. En revanche, élimination d'Adrian Manarino. Défait dès son entrée en lice, le Suisse Stan Wawrinka lui fait ses adieux au rocher. Défaite également de Stefanos Tsitsipas et de Denis Shapovalov. Ce soir, Hugo Humbert défiera Yannick Sinner et on suivra un duel 100% tricolore entre Corentin Moutet et Alexandre Muller. Et puis on va terminer avec du volet sur le territoire. Philippe Salvan est de retour en Nouvelle-Calédonie. Le cadre technique de la Fédération française anime cette semaine une détection pour les jeunes talents, Léo Fichou.
Et Philippe Salvan est arrivé mercredi dernier, le 1er février, pour une visite de 10 jours. C'est la troisième fois qu'il vient sur le territoire. soir et depuis qu'il a atterri, il enchaîne les rendez-vous institutionnels mais aussi et surtout dans les clubs de volley du territoire. Responsable de la cellule nationale de détection, il garde un œil sur les jeunes calédoniens fort potentiels durant cette semaine de détection.
Des joueurs et joueuses de ce qu'on appelle M11, M15 et M13, donc trois catégories qui sont regroupées là au gymnase Véret pendant 4 jours. L'idée, c'est de mettre en place des situations qui seront les mêmes, des situations références sur l'ensemble du territoire français. Donc les mêmes situations à Paris, ici ou en Guadeloupe. L'objectif ultime pour... on va dire les meilleurs d'entre eux, mais même pas les meilleurs, ceux qui présentent le plus gros potentiel, ça serait d'intégrer nos filières de formation fédérale dans l'Hexagone, donc nos pôles espoirs.
Et pour Moïse Kalemou, président de la Ligue calédonienne de volley, les visites répétées de Philippe Salvan sur le territoire sont une marque de confiance. Écoutez.
Ça tisse des liens, il y a de la confiance. Donc s'il est revenu au bout de 6 mois, c'est qu'il y a du potentiel ici en Nouvelle-Calédonie, surtout pour la jeunesse. Donc on a une chance d'avoir cette relation de confiance avec la Fédération française de volleyball. Et que ça montre aussi que la Ligue calédonienne de volleyball fait un travail de terrain et que les dispositifs qui ont été mis en place au niveau de la Ligue est très performant. Donc c'est pour ça que peut-être que c'est une preuve de confiance, mais c'est une preuve aussi de dire qu'il y a du travail qui a été fait ici en Calédonie. Et c'est pour ça que la DTN vient encore une fois au bout de 6 mois ici en Nouvelle-Calédonie.
Jusqu'à vendredi, plusieurs dizaines de jeunes calédoniens, des moins de 11 ans au moins de 15 ans, sont donc réunis à la salle Véret de Rivière-Salée. Et petite indiscrétion du cadre technique de la Fédération française de volley, 2 garçons et 1 fille sont déjà sur ces petits papiers.
Il est 12h02, c'est la fin de ce journal, mais Infomac se poursuit avec le magazine Citoyen, comme tous les mardis. Dans un instant, il sera question de santé mentale. Vous retrouvez Nicolas Legrand et ses invités.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.